La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons reprendre notre itinéraire, qu'on pourrait presque croire sans fin, dans le dictionnaire des titres. Et nous en étions à la lettre M.
Et là, ça va être M, mais cette lettre M que nous allons vous passer là, on rentre totalement dans le vif du sujet, parce qu'il s'agit d'un événement, franchement, on ne croirait pas que ça a pu exister en Amérique.
Oui, alors non seulement ça existe en Amérique, mais on peut en prendre de la graine parce que chez nous, depuis quelques années, ça arrive aussi. Là, ça se passait en 1967 et c'est John Lee Hooker qui va vous chanter tout ça. Pour faire court...
Eh oui, comme quoi nous, on a toujours du retard pour les bonnes choses comme pour les mauvaises.
Avec l'Amérique, c'est 30 ans de retard, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça se passe à Detroit. Detroit ou Détroit, comme vous préférerez.
Oui, puisque c'est un nom français qui a été anglicisé en Detroit.
C'est une ville industrielle qui se trouve en vis-à-vis de Chicago par rapport à Michigan. Et c'est là où se trouvent, entre autres, les fameuses usines de la General Motors. Et là, cette ville qui est surnommée Motor City, elle est l'objet, en 1967, dans son quartier noir le plus pauvre, qui est le quartier nord-est, d'une descente de police importante.
Et il y a la réaction. Il y a 1000 gardes nationaux qui viennent renforcer la police de Détroit, qui était déjà, quand même, ils étaient déjà 4000.
Ah ben, ils étaient tous là, hein, parce qu'il faut dire que le quartier nord-est, c'était le foyer central de tout le trafic possible et imaginable, et même inimaginable.
Et là, ça se répand comme une traînée de poudre. Il y a eu 43 morts, 1500 blessés, 5000 arrestations, et écoutez bien, 1100 immeubles incendiés.
Au total, ça a fait 2 millions de dollars de dégâts et ça a duré 5 jours.
Peste, hein. Alors, on ne va pas rentrer dans qui a raison, qui a tort, mais c'est quand même quelque chose de marquant dans la vie de l'Amérique, ça.
Et comme toujours, c'est dans les paroles du blues qu'on trouve l'histoire au quotidien de tout ce qui se passe pour le milieu noir. Et c'est comme ça que John Lee Hooker a écrit et chanté.
Motor City's burning. La ville, elle est en train de brûler. Et c'était vrai.
Know the big D is burning. Ain't a thing in the world that Johnny can do. My hometown's burning down to the ground. West her in Vietnam. Well, it started on 12 and Claremont that morning. I just don't know what it's all about. On 12 and Claremont that morning, I don't know what it's all about. The fire wagon kept coming. The sniper just wouldn't let him put it out. Firebomb busting all around me, and soldiers was everywhere. Firebomb falling all around me, and soldiers standing everywhere. I could hear the people screaming, sirens fill the air. I don't know what the trouble is. I can't stay around to find it out. I don't know what the trouble is this morning. I just can't sit around to find it out. I'm taking my wife and my family, and little Johnny Lee is curtain now. The Motor City's burning. Ain't a thing that I can do.
Oh, the motor city is burning. Ain't a thing that I can do. I just hope people, it'll never happen to you. Yes, yes, I can hear the farmer. He said, let's get out of here.
Nous voilà maintenant sur un terrain plus calme, quoi qu'il se passe, je crois me souvenir au festival de Newport, mais le festival de Newport, nous y reviendrons plus tard. C'est de Duke Ellington et ça s'appelle...
C'est un titre un peu amusant, Mr. Gentle, ce qui veut dire Monsieur Gentil, en
monsieur
gros.
Monsieur l'aimable.
Monsieur l'aimable. Et Mr. Cool. Alors vous savez, quand on dit cool, ça veut dire on est calme, on n'est pas énervé. Hein.
C'est un dialogue musical entre Renance... qui était trompettiste, mais qui là joue du violon. C'était un très bon violoniste.
Oui, on trouve du violon dans le jazz. Hein. C'est évidemment beaucoup moins courant que le saxo ou que le piano, mais il y a des violonistes qui apportent cette espèce de touche de douceur, quelquefois dans un orchestre. Gentle, justement.
Et en face de lui, Harold Baker, surnommé Shorty, qui était un des rares trompettistes à cultiver le genre sweet. Mais alors, pas le genre suite qui s'affale ou qui a des états d'âme. C'est une manière de jouer la trompette, très détendue, en fait. Mr. Gentle and Mr. Cool. Thank you. Et maintenant, nous allons nous attacher à un monsieur qui n'a pas laissé un très bon souvenir dans l'esprit de Johnny Shine, qui a travaillé dans sa ferme pendant quelques années, qui est chanteur de blues et guitariste. Ce monsieur s'appelait Tom Green et il avait inventé le mouvement financier perpétuel.
Tom Green, c'était un malin. C'était tout simple. Il faisait travailler les Noirs en leur disant « Bon, bah, écoutez, je ne vous donne pas d'argent, mais vous avez un compte chez moi, dans ma boutique, dans mon épicerie. » Et là, du coup, ils vendaient les produits le prix qu'ils voulaient. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, mais il allait encore plus loin, parce qu'il commençait par payer les gens en nature le plus qu'il pouvait. Il faut savoir que la ferme de Tom Green, elle régnait sur quelques plantations. C'était pas une petite ferme. Hein.
Non, c'était grand. Oui.
Mais il n'y avait quand même pas de tout. Alors le reste, ça se trouvait au magasin central, dont Tom Green était également propriétaire. Et c'est là, naturellement, que le peu d'argent que les malheureux recevaient allait se dépenser. Alors c'est ça le mouvement perpétuel, c'est génial, non? Et alors en plus, si tu profites du fonds de roulement pour faire un placement, ça peut être un mouvement perpétuel qui rapporte. Alors vous allez entendre Johnny Shine chanter tout ça, il est un peu amer, Johnny Shine, en y repensant finalement. Et j'ai l'impression qu'il a parfaitement conscience qu'il s'est largement fait rouler et c'est sans doute pour ça qu'il est parti ailleurs assez rapidement.
Mr. Tom Green's form.
If Mr. Tom Green didn't feed so good, I'd leave here right away. He didn't feed so good, I'd leave right away. I go to Chicago to them bright lights, and that's where I would stay. If you lost your woman, and can't find a boy, I'd bet my hand. Oh, if you lost your sweet woman, and can't find her, I'd bet my hand. Well, if you go down to Mr. Tom Green's farm, that's where you find a thank you.
ce que c'est que le scat.
Oui, 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 c'est une improvisation de paroles qui n'ont pas de sens, mais qui par contre ont musicalement une apparence tout à fait percutante.
Alors le scat, c'est extrêmement pratiqué parce que c'est très à la mode et malheureusement, un nombre extrêmement petit de gens savent faire du scat. Donc il faut souvent, à des concerts, entendre des chanteuses scatter indéfiniment et c'est ennuyeux et très scolaire. Donc c'est difficile. Mais alors, ce qui est encore plus difficile, c'est le mumble.
Alors le mumble, je dirais pas que c'est le contraire du scat, puisque c'est pas des paroles. C'est pareil, ça, par contre. Mais autant le scat est assez énergique, un peu dur, un peu exactement comme son nom l'indique. Tandis que là, on a affaire à, au fond, ce qu'on pourrait appeler des marmonnements. Et ces marmonnements, c'est pas du tout du n'importe quoi. Vous savez, c'est pas... Il est en train, avec ses marmonnements, d'imiter chaque instrument de l'orchestre. Il imite la douceur du saxo. Il imite de temps en temps les cris de la trompette. Puis il revient à son marmonnement qui est très swingé. Écoutez bien, vous verrez que ce marmonnement, il est extrêmement organisé.
Sans parler de l'intervention de trompette qui vaut vraiment le détour également.
Mais alors de la vraie trompette, pas de la trompette imitée. Puis même, il y a un moment où, franchement, on a l'impression que c'est la guitare.
Et tout ça, ça s'appelle mumbles, parce que en anglais, marmonnement, ça se dit mumble, tout bêtement. Est-ce que ça t'a plu ?
Ah oui, j'ai trouvé ça à la fois original, plein de musicalité et plein d'invention.
Avec les mumbles, il y a moyen d'organiser carrément un orchestre. Et là, c'est le moment de souligner qu'il y a 10 millions de personnes qui scattent, très peu qui savent faire, mais que les gens qui savent marmonner Eh bien, il n'y en a qu'un que je connais de ce niveau, c'est justement Clark Terry. Alors, puisque c'est lui le seul possible, je propose de le réécouter dans un autre exercice concernant justement l'orchestre, mais toujours en marmonnant. Mais là, il y a un côté assez interpellatif, et ça s'appelle « Le marmonneur a encore frappé ».
Everybody in this doggone house, and let me introduce myself to this, because I want you to know one thing. I just come in town and I bought the baddest cat around. I'm telling you, I don't bother nobody. I don't bother nothing. It's one thing and that goes for you, you and everybody else. That's right. Hey, you! Come over here. Sit down there. Shut up! Listen to me when I'm talking to you, woman. Well, I'm about a bad mumbling mother. And I don't take nobody in this house. That's right. Yeah. Hey, you over there with the wig on. Come over here. Yes, you. Don't tell me anything. I knew it. Shut up! I bet I'll slap the taste out of your mouth. I told you. Because I'm about a bad mother. How about you and me, baby? Take a little walk out to the park. Ain't nothing gonna happen to you, baby. Everything gonna be cool. You know, we gonna be back way before it get dark. What'd you say?
Quand nous disions que les paroles de blues se réfèrent à la vie quotidienne, aux événements marquants de la vie des gens, il en est un petit peu de même pour les morceaux de jazz, puisque nous allons entendre une interprétation de l'orchestre de Count Basie qui se réfère à une comic strip.
Alors, une comic strip, ne croyez pas que c'est du striptease, pas du tout.
Ni que c'est comique, forcément.
Ni que c'est... C'était des petites bandes dessinées très courtes, de 4, 5, parfois 6 images, qui passaient dans les journaux, quelquefois tous les jours. Alors ça pouvait se suivre comme ça pouvait être 5 images qui étaient en général assez amusantes. Ou alors une historiette morale. Vous savez, un peu comme il y avait dans les images d'Épinal.
Mais tu sais, nous avions ça. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs ont connu François. Eh bien, la dernière page de François qui paraissait tous les jours, sauf le dimanche, il y avait une colonne verticale, le crime ne paie pas.
Très moral.
Une colonne verticale de l'autre côté, en symétrique, les amours célèbres.
C'était moins moral.
Ah, quoique. Et entre les deux, il y avait toute une série d'étagères qui, en quelques cases, soit était un feuilleton interminable, dont on se souvient toujours, était Juliette de mon cœur, soit c'était, comme tu disais, une petite historiette en 4-5 images, genre Popeye. Eh bien ça, c'est quelque chose que les Américains aiment énormément.
Et c'est eux qui l'ont inventé, hein, pas nous.
Et c'est comme ça que la comic strip, si ils appelaient ça comme ça, qui s'appelait Mr. A. Matt, qui est paru pour la première fois en 1907. Mais alors ça a duré très longtemps.
Mr. Matt and Jeff.
Eh bien, ça donnait lieu à un morceau de jazz qui, par plaisanterie, se réfère également au surnom de deux autres musiciens très connus. Alors voilà, bon, c'est un petit cadeau comme ça en passant de Count Basie et de son orchestre à ses deux copains. Et ça s'appelle naturellement
Matt and Jeff.
Lettre M, vers la fin, puisque c'est M-Y, nous sommes tombés sur notre ami Cat Anderson.
Ah oui, et alors là, ceux qui ont le cœur tendre, écoutez bien, ça s'appelle My Adorable D, ce qui veut dire Mademoiselle D, l'adorable, mon adorable. Et effectivement, il était follement amoureux d'une certaine Dorothy.
Miss D.
Et cette Dorothy, elle n'a jamais voulu se marier avec lui. Triste, hein?
Et pourtant, il comptait bien l'épouser.
Et oui, on va l'entendre raconter son amour.
En musique, avec un excellent arrangement, parce que Cat était un très bon arrangeur. Et il a quand même manifestement été très déçu, et ça s'entend dans le final, qui est assez quand même celui d'un homme pas content du tout.
Puis alors, quand Kat n'est pas content, dans les suraigus, ça y va. Hein.
Ouais, ça griffe, ça griffe. Voici maintenant dans une boutique au fin fond d'un quartier populaire, une boutique assez courue mais discrètement, et où on vend un produit qui s'appelle John the Conqueror Root.
Alors, en gros, il s'agit d'un gris-gris qui donne à celui qui le porte la possibilité d'influer sur les autres, mais de façon sérieuse. Alors, apparemment, il y avait beaucoup de gens qui acheter ce truc-là parce que tout le monde a toujours eu envie de faire vers aux autres tout ce qu'on veut soi-même, n'est-ce pas ?
Manipulation !
Et oui ! Puis alors, surtout, ça fait la fortune de gens qui peuvent vendre n'importe quoi. Mais, hé, rappelez-vous que nous, en France, en Bretagne, en Auvergne, on avait des pattes de lapin, des petits os d'animaux qui nous portaient chance. Enfin, bref.
Comment ça, on avait ? Mais on l'a toujours.
Mais les gens s'en vendent plus, mais bon.
Ils s'en vendent plus, mais ils nous entendent, ils savent qu'on sait. Et donc ce produit-là s'appelle
la racine.
La racine de John le Conquérant.
C'est un voilà. Peu ça. Et alors là, celui qui va jouer, il appelle ça Maille.
Mon talisman,
à moi.
Et tu sais qui c'est ? Eh bien c'est Muddy Waters. Il s'agit d'un blues qui comporte des appels avant de passer en tempo régulier. Pa-da-da-da-dam. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, il y a une réponse. Ray Charles a utilisé ça aussi. Après, bon, ben, une fois que les appels sont faits, hop, on entre dans le fil du chorus et puis on recommence après.
My piston is snap. My mojo is frail. Oh, but I rub my root. My luck will never fail. When I rub my root. My John the Conqueror. Well, you know that ain't nothing she can do. time I joined the Congaroo. Murder in the first degree. The judge white cried, let the man go free. I was rubbing my roots, my John the Conqueror. Yeah, you know that ain't nothing she can do. Well, long as I rub my John the Conqueror.
Figure-toi qu'un jour, Count Basie, en tournée en Californie, a fait la rencontre d'un disc jockey qui a énormément aimé sa musique et ils sont devenus très amis.
On va revenir à une époque du développement de la radio.
Ça, c'est les années 30.
Voilà. Et là, il y a des gens qui ont pris une importance tout à fait capitale et c'est logique, ce sont les disques jockeys. Ça, ce mot existe encore maintenant, mais on les appelle...
Digi.
Les DJ maintenant, c'est pareil, disent jockey.
Ouais, ça
vient de là, ça vient de là. Et ces gens-là, ils avaient tellement d'importance. Pourquoi ? Parce qu'ils choisissaient les morceaux, les orchestres qu'ils allaient passer sur la radio.
Et ils en parlaient.
Et la radio, elle s'est répandue comme une traînée de poudre parce que c'était pas cher. On en achetait une, ça c'était cher, mais après on avait toute la musique qu'on voulait.
Et le rôle du disque jockey a été tellement important qu'ils sont devenus les meilleurs. Aussi populaire que les meilleurs orchestres ou les meilleurs musiciens. Même on en a vu au cinéma, si tu as vu Cabin in the Sky, le rôle de Little Joe, qui a une voix un peu comme ça. Il est tenu par Rochester, qui était le disc jockey le plus célèbre de New York. Et là, celui de la Californie, dans les années 60, s'appelait Johnny Magnus. Alors naturellement, les disc jockeys étaient des gens très connus, qui en profitaient et qui faisaient beaucoup de conquêtes.
Eh oui.
Et M. Johnny Magnus était un personnage au physique extrêmement avantageux. En argot, nasty. Voilà pourquoi le morceau que vous allez entendre, qui commence par une délectable pulsation à la maracas, je vous signale, s'appelle...
Nasty Magnus.
Thank you.
Et pour terminer cette émission, nous allons vous emmener au festival. Pas n'importe lequel, au festival de Newport. Alors, chère madame, qu'est-ce qu'un festival, je vous le demande ?
Le premier festival, si on peut dire, c'était pas du jazz.
Que non !
C'était à Bayreuth, et c'était Wagner et le roi qui le subventionnait, qui avaient inventé ça.
D'ailleurs, il était complètement fou, ce roi. Oui. C'était bien, donc, le festival est donc bien l'invention d'un fou.
C'est-à-dire, pendant 5 jours, toute l'Europe cultivée venait à Bayreuth voir, écouter, se rencontrer aussi. Hein,
et se montrer.
Et se montrer à des spectacles qui duraient parfois 5 heures d'affilée. Hein. 5 heures d'affilée, je précise bien. Hein.
Et certains après lesquels on n'applaudissait pas. C'est très curieux, cette tradition. Il y a une pièce où il n'y a pas d'applaudissement. Et le malheureux qui aurait l'idée funeste de taper dans ses mains.
Était considéré
arrêter.
Comme un extraordinaire bouseux.
Hein, arrêté par la police à la sortie. Enfin, ça, c'est le festival. Alors, le festival, il y en a eu donc depuis très longtemps, puisque Wagner, c'était le 19e siècle, fin du 19e.
C'était donc un précurseur. Et peu à peu, c'est devenu une sorte d'habitude de se retrouver pour entendre une certaine musique. Tous les amateurs arrivaient et il y en a eu de plus en plus, des festivals de musique classique. Et bien sûr, le jazz, il a embrayé. Un peu plus tard, bien sûr.
Un peu plus tard. Le précurseur en la matière, le pionnier, je dirais, du concept de festival de jazz.
C'est un Français, figurez-vous.
On en a souvent parlé, puisqu'on l'a bien connu. C'est même chez lui qu'on a appris la musique, en fait. C'était Hugues Panassier, à qui Radio France, de l'époque, en 1948, a confié l'organisation du festival de jazz de Nice.
Qui existe toujours.
Mais il y a eu d'autres festivals de jazz par la suite, et le plus célèbre, je pense, c'est celui de Newport.
Oui, finalement, c'était quand même logique que le jazz revienne dans son pays d'origine.
Logique. Newport, c'est une petite ville qui se trouve à mi-chemin entre Boston et New York, et qui est une station plaisancière, je dirais. C'est réputé pour ses yachts, ses bateaux à voile.
Oui, c'est pas des pauvres gens qui habitent Newport. Ils viennent en vacances, là. Hein. Ils ont, comme tu disais, leur yacht et leur propriété.
Oui, et leur marina au bord du truc, enfin bref. Et là, il y a un mécène à cette époque-là. Et ce mécène, il est dans les tabacs. C'est un mania du tabac. Il adore le jazz et il a l'idée de faire un cycle de conférences avec des masterclass à Newport, pour animer un peu les choses, à quelques concerts, et il confie tout ça à un jeune musicien de l'époque qui commence à être connu, qui est dans des affaires aussi, qui s'appelle George Wynne. Et George Wynne va devenir d'ailleurs l'organisateur numéro 1 planétaire des festivals de jazz plus tard. C'est lui qui est à l'origine de Newport. Ça commence en 1954, au casino, mais naturellement il y a tellement de succès que ça se retrouve en 1955 sur un stade de baseball.
Et c'est grand, hein, c'est un grand stade de baseball.
C'est drôle parce que quand on voyait les photos du public prises d'hélicoptère, on voyait exactement le quart de camembert que représente le stade de baseball qui est représenté par les chaises. Enfin, ça a énormément de succès. Ça mélange un peu toutes les musiques parce que George Wynne, il appelait ça festival de jazz, mais il y avait aussi des choses non jazz pour attirer d'autres publics. Et un beau jour, en 71, il y a un gros problème de réservation d'entrée. Il y a une bousculade monstre. Les gens ne peuvent plus entrer. C'est l'émeute.
Et il y a quand même 300 blessés. Hein.
Alors, on envoie la garde nationale.
Qui aurait cru ça d'un festival de jazz, mon Dieu, plutôt cool. Hein.
Ben oui. Enfin, là, on envoie la garde nationale et on interdit le festival. Lequel rebondit illico dans New York, entre divers lieux à la même époque, et va s'appeler Festival de Newport à New York. Et ça passe en 72, et nous y étions. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on vous fasse entendre ce qu'on a pu y écouter, parce que un jour, ça sera quand même publié, un jour ou l'autre. Bref, nous voilà dans une fameuse édition, en 1956. C'est une édition qui a beaucoup marqué. Et c'est Buck Layton et un orchestre de circonstances un peu rassemblé autour de lui. Et le morceau s'appelle naturellement
Newport Jump. Et il faut préciser que ce festival, ils en ont fait un film qui a été un succès incroyable en France. Et le film s'appelait Jazz à Newport. Tous les jeunes de notre génération ont vu ça.
Oui, le titre américain, c'était Jazz à Summer Day. Et alors maintenant, quand on le revoit si longtemps après, là, on se rend compte quand même que c'était très mal filmé, pas toujours bien choisi, et avec des panoramiques sur le public interminables. Mais nous, On s'en est pas aperçu à l'époque.
Ça a plu.
Oui, ça a beaucoup plu. Newport Jam.
Thank you. C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.